Pétrole, anatomie d'une malédiction.
Alors que la guerre fait rage en Iran, le monde assiste une fois de plus à la puissance du pétrole. Le blocage du détroit d'Ormuz fait vaciller les marchés, ravive le spectre d'une crise énergétique globale et étale nos dépendances. L'or noir n'est pas qu'une matière première, c'est un levier de domination, un moteur de guerre et un lourd fardeau pour la planète.
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec Mathieu Ozano, l'auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole.
Épisode 4, 1991, la guerre pour l'or noir.
Les démocraties naissantes et fragiles d'Europe de l'Est et d'Amérique latine font déjà face à un défi colossal pour réussir leur transition vers une économie de marché. Mais le poids supplémentaire de la hausse des prix du pétrole constitue un fardeau écrasant qu'elles ne peuvent supporter. Et notre propre économie en souffre également, subissant les effets de la hausse des prix du pétrole et du ralentissement de la croissance résultant de l'agression de Saddam. Chaque jour qui passe, les forces de Saddam se renforcent et s'enracinent davantage au Koweït. George Herbert Bush, président américain, allocution radiophonique le 5 janvier 1991. On poursuit avec vous, Mathieu Ozano, notre conversation sur l'histoire du pétrole. Vous avez été longtemps journaliste, vous avez également dirigé le Shift Project aux côtés de Jean-Marc Jancovici pendant une dizaine d'années et vous êtes l'auteur d'un grand livre d'histoire, Or Noir, la grande histoire du pétrole, publié en 2015, si je ne me trompe pas, aux éditions de La Découverte. On raconte cette histoire et on est en 1991, on est en janvier, c'est juste avant que les États-Unis interviennent massivement et sur le sol en Irak, mais je crois qu'il faut revenir un peu avant. Comprendre ce qui se passe à ce moment-là, il faut revenir une dizaine d'années plus tôt, non ?
Même 20 ans plus tôt, on faisait allusion dans l'épisode précédent à la date fatidique de 1973, du choc pétrolier, qui pour moi est une conséquence de l'amorce du déclin de la production américaine de pétrole en 1970. Et en fait, tout le surinvestissement cauchemardesque de la puissance américaine autour du Golfe arabo-persique, pour moi, elle est inscrite dans le déclin de la production américaine. Pourquoi ? Parce que le Golfe arabo-persique recèle les plus belles ressources, les plus amples ressources de pétrole sur la Terre, hors des États-Unis. Seulement, les États-Unis ont exploité, ont été premier producteur mondial de pétrole pendant jusqu'en 1970 à peu près, pendant l'essentiel du XXe siècle, et ont épuisé ce trésor. Et à partir de 1979, à partir de 1980, la puissance américaine ne va pas cesser de s'imposer de manière épouvantable autour du Golfe arabo-persique. On se rappelle effectivement de 1991 en France, on se rappelle de la guerre du Golfe, on disait que l'armée de Saddam, c'était la quatrième armée du monde, c'était la première guerre d'après l'effondrement du mur de Berlin, après la fin de la guerre froide, mais on a largement oublié ce qui précède. Ce qui précède, c'est la guerre Iran-Irak. La guerre Iran-Irak, c'est la plus longue guerre conventionnelle du XXe siècle, tout simplement. Dieu sait qu'il y en a eu des guerres conventionnelles au XXe siècle, c'est la plus longue. 1988. C'est un affrontement entre l'Irak de Saddam Hussein, provoqué par Saddam Hussein, face au pouvoir des Mollahs, à la République islamique d'Iran et de l'Ayatollah Khomeini. C'est une guerre qui dure donc 8 ans. C'est une guerre qui ressemble furieusement à la guerre de 14, parce que c'est une guerre de tranchées. C'est une guerre où on utilise l'arme chimique massivement, surtout les Irakiens. Mais dans cette guerre-là, quand on s'attarde sur les menées américaines au cours de cette guerre, on s'aperçoit qu'on assiste à un bon vieux divisé pour mieux régner. Pourquoi ? Parce que l'Iran, on va venir sur le comment dans un instant, mais le pourquoi, c'est l'Iran et l'Irak, ce sont les deux puissances de la région. Autour du Golfe Persique, vous avez le plus gros trésor économique de la planète, les plus grosses, les plus amples réserves pétrolières. L'Arabie Saoudite, c'est les plus riches, mais c'est tout petit, ils ne sont pas très nombreux. C'est un nain géostratégiquement. Par contre, l'armée irakienne et encore plus l'armée iranienne, ce sont des armées très puissantes. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que l'Amérique de Reagan manipule les deux camps de façon à ce qu'ils s'affaiblissent le plus possible et que la guerre dure le plus longtemps ? Eh bien, il y a deux...
Et après, vous nous direz dans quel but ?
Le but, c'est diviser pour mieux régner. Ça a été dit par Kissinger des années après. C'est demeurer le dominium ultime, faire que la puissance américaine reste le pouvoir suprême autour du golfe Persique. Les principautés arabes, elles sont sous domination américaine. On l'a dit dans un épisode précédent, oui. L'Arabie saoudite a été construite en tant qu'État moderne de bout en bout par les Américains. L'Iran, l'Irak, c'est plus compliqué. Et en fait, surtout à partir du moment où l'Iran passe des mains du Shah, qui était le meilleur allié de l'Amérique dans la région, aux mains des Mollahs. Il y a deux phénomènes tout à fait bien documentés qui permettent de comprendre qu'on a une bonne vieille stratégie du diviser pour mieux régner. La première, c'est l'Iran Gate.
Oui.
Alors l'Iran Gate, c'est encore un épisode qu'on a peut-être complètement oublié, mais qui est absolument fascinant. Mm-hmm. Si je résume vraiment à grands traits cette espèce de scandale tentaculaire, c'est on s'aperçoit, je crois en 1984, c'est sorti par un journal libanais, que l'armée américaine ravitaille en pièces détachées et en munitions l'armée iranienne.
Iranienne, hein, pas irakienne.
Iranienne. Alors que à ce moment-là, l'Iran de l'Ayatollah Khomeini et l'Amérique de Reagan sont censés être les pires ennemis.
Oui, le grand Satan.
Le grand Satan, mm-hmm. C'est comme ça qu'on appelait l'Amérique. Ouais. L'Iran Gate, on s'aperçoit que l'armée américaine ravitaille en pièces détachées l'armée iranienne, qui est une armée, qui est l'ancienne armée du Shah. Donc en termes d'équipement, qui est de bout en bout une armée américaine. Donc avec des opérations qui sont contrôlées par la CIA, avec des flux d'argent cryptiques qui reviennent pour financer des opérations contre-insurrectionnelles anticommunistes en Amérique centrale, au Nicaragua en particulier. Voilà, l'Iran Gate, c'est ça.
L'Iran Gate, d'où le nom, l'Iran Contra Gate, ouais, c'est pour alimenter pour les contras.
Les contras qui étaient, voilà. Qui étaient des forces anti...
fascistes, fascisantes,
oui.
au Nicaragua.
Cet épisode, il naît au moment de ce qu'aux États-Unis on appelle la surprise d'octobre. Alors la surprise d'octobre, il y a cet épisode des otages pris dans l'ambassade américaine sous Carter, donc à la fin des années 70, fin 79. Mm-hmm. On est au début de la campagne qui va voir la victoire de Reagan. Carter n'arrive pas, et il est humilié à cause de ça, à libérer ces otages qui sont pris par les révolutionnaires iraniens. Les gens qui sont en train de prendre le pouvoir en Iran. Et les otages sont libérés le jour de la prestation de serment de Reagan.
En janvier 1981.
Voilà. Et il y a plusieurs témoins très proches de cette histoire-là qui disent qu'en fait, voilà, il y a eu de la diplomatie parallèle menée par l'équipe de campagne de Reagan pour passer un deal avec l'Ayatollah Khomeini. Et effectivement, c'est très bien documenté que, via Israël, pendant l'essentiel de la guerre Iran-Irak, un certain nombre de pièces détachées et de munitions et d'équipements militaires de manière générale américains permettent de soutenir l'effort de guerre iranien et font que l'armée iranienne ne s'effondre pas. Mm-hmm. Parce que l'autre possibilité, c'était d'aller voir les soviétiques. Or, en fait, les islamistes et les soviétiques ne s'entendent pas du tout.
Non.
Second épisode. Donc ça, c'est l'Iran Gate. Second épisode, 1983, Donald Rumsfeld, qui va devenir le patron du Pentagone sous Bush Junior, va voir Saddam, donc va à Bagdad. Et à un moment où, précisément, l'armée iranienne est à l'offensive et gagne du terrain sur le front de la guerre en Irak, qui est une guerre, je dis que c'était très long, mais c'est des centaines de milliers de soldats engagés, peut-être des millions de morts, très probablement des millions de morts, c'est quelque chose de massif. Et donc, Rumsfeld, à un moment où les Irakiens sont en difficulté, va à Bagdad en disant « Vous êtes moins nombreux, votre armée est moins nombreuse, on va vous ravitailler en armement chimique ». Et à partir de ce moment-là, Saddam utilise massivement l'arme chimique avec des circuits d'avitaillement qui viennent d'Europe et qui viennent des États-Unis et qui ont l'aval des États-Unis. C'est-à-dire qu'au même moment, vous avez les Américains, l'administration Reagan, qui ravitaille en armement l'Iran et qui permet à Saddam d'utiliser l'arme chimique massivement.
Donc l'objectif, c'est que le conflit, selon vous, dure le plus longtemps possible, qu'aucune des deux puissances
ne prévale
et ne sorte avec une grande victoire. Quel rapport avec le pétrole ici ?
Autour du golfe Persique, vous avez le cœur de l'économie mondiale.
Mm-hmm.
Le cœur. Ce qui pompe, on peut faire cette analogie avec le sang. L'énergie, les systèmes énergétiques, c'est le système sanguin. Le sang, c'est l'énergie, c'est ce qui apporte l'énergie et les nutriments à l'ensemble de l'organisme. Donc, celui qui contrôle sur la planète pétrole, où le pétrole est la première source d'énergie en quantité et en qualité, qui domine le golfe Persique, domine l'économie mondiale, tout simplement.
Et là, on pense beaucoup à la période que l'on vit actuellement, bien sûr.
Oui, et d'ailleurs, on peut rappeler un autre épisode de cette longue guerre Iran-Irak. Il y a eu la guerre des tankers. Donc, pendant une longue période, Saddam attaquait les infrastructures pétrolières iraniennes, notamment l'île de Karg, dont on a pas mal parlé, qui est le terminal principal pétrolier iranien, dans le but de pousser l'Iran à la faute en bloquant le détroit d'Hormuz. Pendant la guerre des tankers qui va durer des années, les Iraniens vont attaquer les tankers irakiens, mais jamais, 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 ils ne bloqueront le détroit d'Hormuz. C'est dire que si aujourd'hui on est dans une situation très périlleuse.
Mais n'oublions pas 1991, cette date qui ouvre cet épisode. 1991, la guerre dans la région, c'est encore une guerre du pétrole, non ?
Alors,
le point de départ, c'est Saddam Hussein qui vient prendre un bout du Koweït.
Ouais, en fait, il est probable que pendant cette guerre Iran-Irak, on soupçonne fortement, et c'est assez plausible, que les Koweïtiens aient pompé le pétrole irakien subrepticement en faisant des forages déviés, obliques, sous la frontière koweïtienne. Et donc, il n'est pas invraisemblable que Saddam Hussein ait eu des raisons légitimes d'être un peu fâché contre les Koweïtiens. Il est assez clair, enfin, les Américains ont une position ambiguë.
Oui. On dit parfois que c'est les Américains qui ont autorisé Saddam Hussein à le faire.
En tout cas, ils n'ont pas dit « pampan cucu si tu y vas ».
D'accord.
Ça, c'est clair. Et pour moi, c'est d'une logique stratégique qui a été très explicitement décrite par Bush, père, par Brent Snowcroft, qui était le patron de la sécurité nationale, ce qui était son grand stratège, mais également par Kissinger, cette volonté constante de la part des États-Unis, à partir du moment où la production américaine de pétrole décline, de prendre le contrôle du Golfe arabo-persique, no matter what. Quoi qu'il arrive. Et voilà, la guerre du Golfe est quelque chose qui a surpris tout le monde à cette époque-là. C'est, tiens, ce personnage, Saddam Hussein, bon, qui était un aimable correspondant de la CIA depuis très longtemps, ça s'est bien documenté, comment ça se fait que ce personnage que Bush, père, à ce moment-là, compare à Hitler, ne soit pas destitué ? Alors que l'armée irakienne prend vraiment une raclée.
Vous voulez dire après la guerre de 91 ?
Après la guerre du Golfe, on est assez surpris de ce que l'armée américaine n'aille pas à Bagdad pour dégager. Il y a même un coup d'État qui est prêt, que la CIA encourage, mené par des chiites, des baathistes en rupture de banc avec Saddam et les Kurdes. Tout ça est prêt et au dernier moment, plusieurs fois, sous Clinton, la prise est tirée. Et derrière, on met en place un embargo qui va durer jusqu'à 2003, qui permet de garder l'Irak sous contrôle américain, en fait. Et cet embargo qui fait des centaines de milliers de morts. Pétrole contre nourriture. Et vous avez Madeleine Albright, qui était la patronne de la diplomatie de Clinton, qui, lorsque une journaliste américaine lui demande si ça vaut le coup qu'il y ait des centaines de milliers d'enfants qui meurent de malnutrition ou par défaut de soins, parce que l'embargo, c'était ça. On allait beaucoup plus loin qu'empêcher Saddam de se réarmer. On a détruit systématiquement toutes les centrales électriques, tout ce qui était système d'adduction d'eau. Et quand on a demandé à Madeleine Albright si ça valait le coup d'avoir 500 000 d'enfants irakiens morts, est-ce que le jeu en valait la peine, en 98, donc des années après, elle a dit oui, ça vaut le coup.
Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'avait dit George Bush lorsqu'il avait, le père, lorsqu'il avait dit au moment des négociations sur le climat, le mode de vie des Américains n'est pas négociable? Est-ce que c'est la même histoire?
Peut-être bien. Peut-être bien. Moi, j'ai envie de citer, parce qu'effectivement, vous avez raison, on regarde tout ça de l'œil qu'on a aujourd'hui. Moi, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une constante stratégie cauchemardesque de la part des Américains pour asseoir leur domination sur le Golfe Persique. Trump, on le prend souvent pour un impulsif et un malade. Oui, il est peut-être malade, mais je crois qu'il y a...
Il s'inscrit dans une histoire.
Il s'inscrit dans une histoire, et je pense qu'il a une logique « there's a method to the madness ». C'est...
Une théorie de l'homme fou, quoi.
Oui, mais qui, pour moi, ne fait que... Vous voyez, Marx disait, en comparant Napoléon III à Napoléon, disait, après la tragédie, la farce. Une farce, c'est très violent. Guignol, c'est un coup de matraque. C'est terrible, une farce. C'est pas que drôle. Pour moi, Trump est parfaitement dans la continuité de Reagan, de Bush, père et fils, Clinton. Et voilà, il réinvente des techniques impérialistes qui sont aussi vieilles que les empires occidentaux. Ce qu'il fait aujourd'hui en Iran, ce qu'il a fait au Venezuela il y a quelques mois, c'est réhabiliter la bonne vieille diplomatie de la canonnière. Et quelque part, les Américains, en 91, ce qu'ils font, en ne destituant pas Saddam et en l'affaiblissant au maximum, c'est la diplomatie de la canonnière.
Ils ne l'ont pas destitué en 1991, ils le destitueront lors de la deuxième guerre du Golfe, qui sera l'objet de notre prochain épisode. Pétrole, anatomie d'une malédiction est un podcast original de France Inter.